le piano. Il n'aimait pas quand elle ne finissait pas ses phrases et ne jouait plus. Il l'avait regardée replacer le napperon et la plante, épousseter le tabouret, le remettre en place, et dire d'une voix qui n'était plus tout à fait la même « Viens, ton père va bientôt arriver. » Alors, des jours comme ça, maman filait à la cuisine et le petit garçon voyait bien que sa légèreté n'existait plus. Ses mains n'avaient plus aucune douceur avec les choses qu'elle touchait. Elle s'énervait et regardait sa montre. Elle jetait vite un coup d'œil à la fenêtre. À sa montre. À la fenêtre. Kyle montait sur une chaise et essayait de voir ce que maman surveillait. Il ne distinguait que le gros érable qui étendait ses longues branches sur l'allée. Peut-être voyait-elle des choses qui lui faisaient peur? Peut-être voyait-elle de vilaines araignées velues? « Tu regardes quoi, maman ?» Elle ne répondait pas et partait mettre la table. Elle plaçait les couverts et les verres au millimètre près. Tout devait être impeccable et beau. Quand elle ne jouait pas, elle faisait tout le temps le ménage et changeait l'eau des fleurs. Tous les jours. Elle disait que c'était important de bien s'occuper des choses. Si tu as une plante ou un animal, tu dois être gentil avec. Lui donner à manger, lui parler, le caresser. Tu dois lui faire des câlins. Tu dois lui dire que tu l'aimes. Puis tout à coup, elle se retournait vers son fils. Tu promets que tu seras toujours un gentil garçon, Kyle.
Mais je suis gentille, maman, hein?
Elle ne répondait pas, ou alors de façon si détachée, qu'il savait qu'elle ne s'adressait pas à lui, qu'elle était déjà ailleurs. Elle regardait sa montre, et lui ne comprenait pas pourquoi elle avait très peur, et pourquoi elle portait ses horribles lunettes de soleil pendant des jours entiers, et pourquoi elle ne voulait plus aller dehors quand il faisait encore beau, et pourquoi sa chambre à lui était au dernier étage de la maison, alors que celle de ses parents était tout en bas. Kyle n'avait que 5 ans. À 5 ans, on comprend certaines choses, mais pas toutes les choses. À 5 ans, on ne doit pas entrer un matin dans la chambre de sa maman parce qu'elle ne s'est pas réveillée. Et on ne doit pas non plus voir de taches rouges sombres qui s'étend sur l'oreiller. Juste sous ses cheveux. Chapitre 2.
Allô?
Maman est couchée et l'oreiller est tout rouge.
Ta maman est endormie?
Je crois pas.
L'interlocutrice de Kyle reçut une décharge électrique qui la parcourut de la tête aux pieds. Julia Dos Santos avait toujours redouté d'entendre ces mots. Elle faisait ce métier depuis plus de 45 ans, et chaque soir, elle rentrait chez elle en se répétant comme une prière. Pas encore. Et jamais. Avec cependant la sourde et étrange certitude que ça viendrait. Aujourd'hui était sa dernière journée de travail. Demain, elle serait à la retraite. Mais demain et tous les jours suivants, elle n'entendrait plus que la voix de ce petit garçon. « Tu habites où, mon petit ?»«
Une maison blanche avec des roses. »«
Où ?»«
À Wellington. »«
Tu connais le nom de ta rue ?» demanda Julia en se tournant immédiatement vers le plan de la ville.
« Non. »«
Est-ce que tu vois l'église de chez toi ?»«
Oui, dans ma chambre. »
Julia traça un cercle au feutre rouge sur le plan de Wellington. Lui demanda de décrire ce qu'il y avait de spécial dans sa rue.
« Il y a un garage avec des voitures cassées. »
Julia posa la pointe de son feutre à l'entrée de la rue Austin.
« Je vois. Et ta maison, c'est la combien ?»«
La dernière. »«
Je sais où tu habites, mon petit. Comment t'appelles-tu ?»«
Kyle Jenkins. »
articula-t-il.
« Kyle, écoute-moi bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec toi dans la maison ?»«
Non, il n'y a que maman. »«
Mon petit, tu nous attends devant la porte. Tu ne bouges pas. On arrive tout de suite. »«
Et maman ?»«
On arrive, mon petit. Reste dehors. »
Kyle n'alla pas sous le porche attendre les secours. Il descendit dans la chambre de maman. Elle n'avait pas bougé depuis tout à l'heure. Il n'entendait pas sa respiration. Il sut qu'elle ne parlerait plus jamais, et que bientôt, Il ne la verrait plus parce que on la mettrait sous la terre. Alors il grimpa sur le lit, il tira la couverture et posa la tête sur son épaule. Peut-être qu'elle chantait. Peut-être qu'elle était heureuse là où elle était. Quelques minutes plus tard, il entendit des sirènes de voiture et le gravier de l'allée se déchirer. Des portières claquèrent. On cria son nom. Les bruits envahirent sa tête et quelqu'un ouvrit la porte. Chapitre 3. Burgington, banlieue de Londres. Corinne avait 5 ans quand Timmy arriva. Sa mère était partie pour la maternité et avec ses 4 frères, elle attendait que leur papa rentre. Dès qu'il passa la porte, il renvoya la babysitter et dit d'une voix que Corinne ne lui avait encore jamais entendue « C'est toujours pas fait. On dirait que ça se présente mal, cette histoire. Alors fichez-moi la paix, les gosses. Filez dans le jardin et toi, Corinne, apporte-moi une bière. Oh, bordel de sainte contraction! Si tu savais comme je me fais du souci pour ta mère !» Les garçons détalèrent dehors, jouer et rire et faire les andouilles, se salir comme des cochons et rire encore pendant qu'elle demeurait debout à écouter son père enchaîner des tonnes de gros mots. Il déplaça des casseroles et des cocottes. Elle songea à sa mère et à sainte contraction. Corinne était la seule fille de la famille Benton. C'était donc à elle de rester dans la cuisine. Elle pensait que c'était normal puisque sa mère le faisait. Tout comme il était normal d'en faire plus quand, hiver après hiver, celle-ci partait à la maternité. Pendant des jours, le père jurait après sainte contraction, suppliait sainte douleur de ne plus torturer son épouse adorée et certifiait que sa femme, leur mère, était tout simplement une sainte quand elle passait le seuil avec le nouveau-né, emmailloté comme un boudin dans ses gros bras. Dans la foulée, il annonçait que c'était leur cadeau de Noël. Les grands criaient que le père se fichait d'eux et Corinne pensait que le Père Noël ne visitait pas les familles de 11 enfants. Pas parce qu'ils étaient plus mauvais que les autres, mais parce qu'il ne devait pas y avoir assez de place dans sa hotte pour les 10 garçons et la seule fille de la famille Benton, aussi gentille soit-elle. Les années s'enfuirent, se ressemblant désespérément. Même bonne note, éternel crumble. 10, 12, 14 bougies usées. Elle pria Saint Machin Truc pour que ses parents ne s'en rendent pas compte et qu'ils la laissent aller en classe. Elle adorait apprendre et se donnait tant de mal. Elle baissa la tête, mit de larges pulls, natta ses longs cheveux. Ses 16 ans surgirent en un rien de temps, et son père constata, un matin au petit déjeuner, que sa jolie petite fille blonde, qui sautillait dans le jardin, était devenue en l'espace d'une nuit, il l'aurait juré, une jeune fille inhabituellement belle. « Je le vois, les autres le voient. » L'homme, pragmatique, fut pris de panique et négocia sa prochaine embauche chez son meilleur ami Teddy, dont le restaurant se dressait fièrement au bout de la rue des Benton. Il n'écouta ni les suppliques du principal, ni celles du professeur d'espagnol, ni celles de Corinne. Peu importait qu'elle soit excellente en littérature, en mathématiques et douée pour les langues étrangères. Peu importait tout ce que les professeurs disaient. Clark Benton avait la trouille et les idées arrêtées au rebord de son porte-monnaie. Dès le mois de juillet suivant sa sortie de classe, Corinne commença à servir à longueur de journée du poisson frit, des steaks, de la sauce marron graisseuse, des pommes frites, du café, du thé, des œufs et des cornichons. Et des litres et des litres et des litres de bière, mais à une distance raisonnable de sa maison et sous le regard vigilant de Teddy. Corinne était ponctuelle et travaillait vite. Quand elle rentrait chez elle, c'était la même chose. Plus le ménage, les tonnes de chaussettes à trier, les montagnes de linge à plier et ranger, sous les cris incessants de ses frères. Qui dînait à la maison, même s'il travaillait déjà. Question de sous. Question de famille. Le père et la mère Benton aimaient avoir leur marmaille piaillant autour d'eux. Corinne semblait être la seule à se demander ce qu'elle ferait, elle. Jamais elle n'aurait autant d'enfants. Pour peu qu'elle n'ait que des garçons, 1 ou 2, peut-être 3, lui conviendraient. Pas plus. Elle rentrerait dans la norme. Ses enfants en classe n'essuieraient pas les rires, les sarcasmes, les quolibets des autres quand, en début d'année, Certains professeurs avaient l'indélicatesse.